d'entre les morts, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Cette affirmation sans embâche de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens constitue la réponse la plus nette aux Sadducéens d'hier et d'aujourd'hui, et plus encore aux chrétiens qui se posent des questions, d'ailleurs légitimes, sur la résurrection. Les Sadducéens qui interrogent Jésus sont des membres de l'élite sacerdotale et politique d'Israël. Conservateurs en matière religieuse, ils n'admettent l'autorité que de la Torah, les 5 premiers livres de l'Écriture. Or, la foi en la résurrection n'apparaît qu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire exactement à l'époque de la rédaction du livre des Maccabées, dont nous avons entendu un extrait dans la première lecture. Cette idée de la résurrection des morts ne paraît donc pas normative. Pour montrer l'absurdité à leurs yeux d'une telle croyance, les Sadducéens soumettent à Jésus un cas d'école tiré d'une loi de la Torah. Cette loi qu'on appelle la loi du Lévirat dit en effet qu'un homme doit épouser sa belle-sœur veuve afin de donner une descendance à son frère. Mais la logique de cette loi du Lévirat et celle de la résurrection se contredisent. La première parie sur une vie continuée à travers la progéniture. Je continue à vivre par mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. D'où, d'ailleurs, le caractère inconcevable d'un célibat volontaire dans le judaïsme. Et vous comprenez bien la situation délicate, l'incongruité du célibat de Jésus. La seconde logique espère en une vie après la mort qui échappe à notre appréhension. Les Sadducéens sont évidemment des tenants de la première logique. C'est pourquoi ils raillent une conception de la résurrection qui ne serait qu'une vie terrestre projetée dans l'au-delà, conception que diffusaient les pharisiens qui sont les adversaires des Sadducéens dans la société de l'époque. Dans le monde contemporain, il n'existe plus de Sadducéens. Leur postérité s'est éteinte au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les Romains vont mater les révoltes juives de manière expéditive et violemment efficace. Finalement, les Sadducéens sont doublement morts, et ce sont leurs adversaires pharisiens qui ont permis au judaïsme de subsister jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont pris le relais des Sadducéens pour douter de la résurrection. Que l'on pense au maître du soupçon et particulièrement à Friedrich Nietzsche, le plus séduisant, le plus dangereux, bref, notre meilleur ennemi. La résurrection, dit-il, est une invention de gens faibles et pleins de ressentiment. En effet, elle favorise la résignation des personnes éprouvées par la vie. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés après leur mort. Elle fait que la réussite des uns sur cette terre est méprisée par les autres. Tu es heureux ici-bas, et moi je ne le suis pas. Eh bien, au ciel, les premiers seront les derniers, et toc. Finalement, que ce soit les Sadducéens il y a 2000 ans, ou Nietzsche, et les personnes qui pensent comme lui aujourd'hui, la résurrection est comprise comme l'accès à une vie autre qui viendrait soit continuer celle-ci, soit apporter du neuf, mais serait de toute façon attendue comme meilleure que notre vie présente. La révolution qu'apporte Jésus, c'est justement d'inverser la perspective. Dans un ouvrage constitué de plusieurs conférences, ouvrage que je vous conseille de lire parce que c'est très bien écrit, à la fois sur le plan de la conception et de la rédaction. Donc, ce livre qui s'appelle « Cinq méditations sur la mort », autrement dit sur la vie. Donc, dans ce livre, l'écrivain franco-chinois et académicien François Cheng fait la proposition suivante, je cite. Au lieu de dévisager la mort comme un épouvantail à partir de ce côté-ci de la vie, nous pourrions envisager la vie à partir de l'autre côté, qui est notre mort. Jésus dit encore mieux que François Cheng. Il nous invite à envisager notre vie ici et maintenant à partir de la vie d'après la résurrection. Premièrement, Jésus répond aux Sadducéens en semblant leur donner raison. La vie dans l'au-delà de la mort ne reproduit pas celle d'ici-bas. Le mariage n'y a plus cours, par exemple. Et Jésus de préciser, car ils ne peuvent plus mourir. D'une certaine manière, il remet en question le sens donné au mariage par les Sadducéens. Prendre femme, prendre mari, ce n'est pas une assurance vie par descendance interposée. On ne fait pas des enfants pour lutter contre sa propre mort. Deuxièmement, Jésus enfonce le clou vis-à-vis des Sadducéens et répond par avance aux arguments de Nietzsche. Il est très fort. Habilement, Jésus cite la Torah et précisément une parole de Moïse pour mettre les Sadducéens face à leur inconséquence. Celui qu'il considère en effet comme l'autorité suprême en matière de foi en Dieu, ne reconnaît-il pas la résurrection en appelant le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob? Or, comment croire que le Seigneur puisse être le Dieu des morts? La réponse anticipée à Nietzsche se fait à travers la fin de l'argumentation de Jésus. Tous, en effet, vivent pour lui. Non seulement les disciples du Christ ne sont pas des zombies, déjà morts à cette vie, mais surtout, ils sont pleinement ressuscités. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, les enfants de Dieu et les enfants de la résurrection, c'est nous. Si nous croyons que le Christ, lui qui a pris chair de notre chair, est ressuscité, comment ne pas croire que la résurrection nous concerne? Défunts et vivants sur cette terre, les baptisés ont pris part à la résurrection du Christ. En lui, ils sont déjà participants de la gloire de Dieu. De ce fait, si nous pensons à notre existence ici-bas, il nous est impossible de la compter pour rien. Nous ne pouvons pas vivre comme si la vie éternelle n'avait pas déjà commencé. On prête à Nietzsche cette déclaration « Je croirais alors Christ, ressuscité, s'ils avaient le visage du salut. » Par-delà la provocation, n'avons-nous pas à entendre le cri nietzschéen comme un beau défi à relever ici et maintenant? Ne devrions-nous pas, notamment au sortir de la messe, avoir, là aussi on prête à Nietzsche cette expression, des gueules de ressuscité? Jésus nous invite tous à vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. À vivre non pas dans la crainte d'une mort perçue comme point final absurde de l'existence, mais dans l'espérance d'un accomplissement de ce qui fait notre béatitude dès aujourd'hui. À vivre non pas dans l'attente résignée d'un mystère inaccessible, mais dans l'assurance que la vie éternelle est présente au milieu de notre temps, là où le face-à-face avec Dieu réussit. Le jour de la Toussaint, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, le Père Le Jariel nous exhortait à être pour le monde des chrétiens heureux. Eh bien, ce matin, Jésus nous demande d'être pour le monde des chrétiens vivants.